c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Kaolin FM avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin But de Saint-Thierry et la Perche. Ameublement, literie, électroménager, décoration et pour tout projet de cuisine. L'équipe de projet et conception vous attend. Zone commerciale d'Arfeuil, route de Limoges à Saint-Thierry et la Perche.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute en écoute la télé l'hebdo sur Kaolin où vous nous écoutez chaque lundi à 14h et 19h par exemple et bien du côté de Saint-Thierry-la-Perche sur le 88.4 ou à Rochechouart sur le 88.9. Alors pendant une heure on va passer bien en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors ça tombe bien, tout de suite le sommaire de notre émission.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire eh bien, de cette première édition de Chute, on écoute la télé pour cette rentrée, on va consacrer une partie de cette émission au film Voir le jour qui est sorti eh bien, en plein week-end du 15 août. Il est encore dans les salles, le film de Marion Lane avec notamment Sandrine Bonnaire et Brigitte Rouen. Eh bien, Marion Lane et Brigitte Rouen seront nos invités d'ici quelques tout petits instants. On va parler évidemment aussi de la nouvelle édition du Festival du film francophone qui est en cours en ce moment à Angoulême. On va tout vous dire sur les artistes présents et sur les projections et qu'il reste encore jusqu'à mercredi. Et puis nous allons consacrer également une page spéciale en milieu d'émission consacrée à Miss France et à Miss Poitou-Charentes, Miss Aquitaine, puisque les deux nouvelles Miss ont été élues samedi dernier, c'était à Anglette. Et bien les deux nouvelles Miss de notre région en Nouvelle-Aquitaine seront avec nous tout à l'heure pour nous dire leur première interview, leur premier mot. Et elles seront en plus accompagnées de Miss France Clémence Bottineau qui sera notre invitée également exceptionnelle. Et puis en fin d'émission, et bien cap sur Koh-Lanta, direction les îles Fidji avec Jodie, une des participantes que vous avez découvert dans justement ce Koh-Lanta aux îles Fidji vendredi dernier. Et bien Jodie, qui est une des participantes qui représente l'Ouest avec la Nouvelle-Aquitaine, et bien sera en ligne avec nous pour tout nous dire sur son aventure. Vous l'avez compris, c'est encore une belle émission qui nous attend pour cette rentrée. Alors c'est parti, on va parler tout de suite festival du film francophone d'Angoulême, juste avant d'accueillir l'équipe de Voir le jour.
Ensuite, on écoute la télé spéciale festival.
On démarre cette émission évidemment par la partie cinéma qui nous intéresse avec eh bien, ce festival du film francophone d'Angoulême qui a ouvert ses portes depuis vendredi, où on a pu avoir la chance eh bien, par exemple de voir le nouveau film du duo Delépine et De Kerverne avec eh bien, Effacer l'historique. On a pu voir aussi eh bien, Miss en avant-première, c'était hier soir, ça c'était à Angoulême, bien évidemment. Et puis alors, parmi les talents présents, eh bien, par exemple pour défendre le garçon chiffon de Nicolas Maury en compétition, Nathalie Baye et Nicolas Maury sont en ce moment donc au festival d'Angoulême. Nous avons également la chance d'avoir avec nous ici eh bien, à Angoulême pour le film eh bien, notamment en avant-première le 5e set de Quentin Reynaud, Alex Lutz ou encore Christine Scott-Thomas qui était à Angoulême jusqu'à aujourd'hui. Karine Viard et Marc Fitoussi eh bien, sont également à Angoulême à partir de demain pour le film Les Apparences en avant-première. Nous aurons le plaisir également d'avoir Hugo Becker à partir de demain à Angoulême pour le dernier voyage de Paul W.R. de Romain Quirot. Nous avons également l'équipe du film Le Discours de Laurent Tirard avec Yann Cogendy, Julia Piaton et Sarah Giraudot. Gérard Depardieu également est à Angoulême jusqu'à demain pour le film Des Hommes de Lucas Bellevaux. Et puis les deux Alfred de Bruno Podalides également eh bien, étaient en avant-première au festival. Il sortira bien sûr prochainement au cinéma. Le film Police également d'Anne Fontaine jusqu'à aujourd'hui. Eh bien Anne est justement ici à Angoulême pour défendre ce film. Et puis la pièce rapportée également était en avant-première. Josiane Balasco était au Festival d'Angoulême ce week-end. Aujourd'hui, eh bien, au programme, le film Sœur de Yamina Benguigui à partir de 17h en avant-première. On aura la chance eh bien, de pouvoir le voir avant tout le monde. Et puis la Villa Caprice avec Patrick Bruel et Nils Arestrup, eh bien, ça sera ce soir. À 20h 20h également le nouveau film de Benjamin Stora. Voilà donc pour ce qu'on pouvait vous dire sur les invités qui sont en ce moment au Festival d'Angoulême. Et sans transition aucune, on va parler cinéma avec ce film Voir le jour, une pépite que je vous conseille. La semaine prochaine, ça sera la Daronne. Jean-Paul Salomé et Hippolyte Girardot seront avec nous pour parler cinéma dans Chute, on écoute la télé. Mais tout de suite, voici notre spécial donc Voir le jour. Si vous n'avez pas été encore le voir au cinéma, séance de rattrapage, c'est maintenant.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur ciné, eh bien pour démarrer cette rentrée au film Voir le jour, il est sorti il y a maintenant quelques jours, c'est le cas de le dire. Mais on va en parler aujourd'hui, c'est un de nos films coup de cœur, parce que d'une, il a été tourné en partie quand même dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine, et notamment eh bien Charente-Maritime, et sa réalisatrice Marion Laine est avec nous. Bonjour Marion.
Bonsoir, bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous avons également Brigitte Rouen qui est avec nous. Bonjour Brigitte.
Bonjour, pardon.
Merci d'être avec nous toutes les deux. Voir le jour, je dirais que c'est un film de femme, c'est un film de mère. Je crois que n'importe quelle femme qui a été mère un jour peut s'y retrouver, effectivement, dans ce film, Marion.
J'espère que les hommes aussi vont s'y retrouver. Je suis contente parce que les avant-premières que j'ai faites, j'avais des retours d'hommes également. Donc j'espère avoir surtout fait un film tout court avec des femmes. En revanche, ça c'est vrai, avec des actrices.
Comment vous avez eu l'idée du sujet? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un film justement sur la maternité, sur ce travail très dur aujourd'hui, il faut quand même le dire?
Ça vient de deux expériences parallèles. Une expérience personnelle, parce que j'ai travaillé dans un hôpital quand j'étais étudiante, et j'ai déjà été témoin des problèmes, des difficultés que le corps hospitalier rencontrait déjà à cette époque-là, il y a très très longtemps, et ça n'a pas changé, ça n'a jamais changé. Et ensuite, j'ai Julie Bonnic, dont j'adapte le livre, est une amie, mais que je connaissais comme chanteuse avant tout. Et puis j'ai vu sa vie basculer quand, avec le téléchargement gratuit, elle a été obligée de trouver une autre voie. Et quand elle a trouvé cette voie dans l'univers de la maternité, elle m'a raconté, j'ai été témoin de tous les problèmes que manque de personnel, salaire très bas, et puis du coup tous les problèmes afférents à ce genre de situation.
Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de filmer cette histoire à travers ces deux départements qui est les Bouches-du-Rhône et la Charente-Maritime?
Alors, c'est de façon très de façon très évidente. C'est parce que on a eu les aides de région. Donc, c'est vrai que je vous dis pas, mais j'étais très heureuse de tourner au bord de la mer. J'étais vraiment très heureuse d'avoir cette aide de l'Aquitaine. En plus, je crois avoir eu deux aides de l'Aquitaine et de La Rochelle. Enfin, j'ai eu deux aides de la région Aquitaine.
Avec le département également. Brigitte, dans le film, alors c'est un peu le rôle, j'irais, de l'infirmière avec de la bouteille, qui a de l'expérience, qui se prend presque finalement pour le médecin quasiment, et avec des gestes vraiment précis. Comment on apprend tout ça? Comment vous êtes préparée à ce rôle, Brigitte?
Alors, de la bouteille, heureusement, parce que Kenda, quoi, elle a 18 ans, 17 ans. Bon, j'aurais pu être sa grand-mère, donc la bouteille, oui, certes. Maintenant, comment est-ce qu'on apprend? On apprend parce que il faut absolument avoir des gestes pour pas être ridicule. Dans le public, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, moi, c'est comme ça » ou « Moi, c'est pas comme ça ». Imaginez quelqu'un qui a cette pratique ou qui même fait une prise de sang, puis c'est foireux, on est là, on voit que c'est pour de faux et tout, hein, c'est une catastrophe. Donc, on est responsable de ça, c'est le minimum syndical, j'allais dire. Donc, on a appris, pas assez longtemps, parce que le budget permettait pas qu'on apprenne plus longtemps. Moi, j'aurais bien travaillé plus longtemps. Mais on a appris plein de choses techniques avec une sage-femme, dans une maternité, à Paris avec un faux bébé qui était plus vrai que nature, on doit dire. Mais quand même, il avait quelques petites manipulations à faire, presque comme un marionnettiste, parce qu'il faut pas, les muscles n'existaient pas, donc il fallait donner de la tension au bébé. Donc c'est nous qui lui donnions cette tension, parce que les bébés sont pas mous du tout, ils sont formidablement forts et costauds. Donc on s'est préparé comme ça, et puis voilà.
Marion, le choix de Sandrine Bonner pour accompagner cette histoire, qui est le choix d'une mère qui cache des secrets, qu'on ne révélera pas évidemment, pour pas déflorer évidemment l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas vue, mais le choix de Sandrine et de tous ceux qui l'accompagnent.
Alors Sandrine, au départ le livre, c'est une femme d'une trentaine d'années, donc je pensais pas à Sandrine en commençant l'adaptation. Et puis au fur et à mesure de l'écriture, j'ai rapproché la vie de Julie, je l'ai rapproché de la mienne. Et c'est vrai que je voulais adapter qu'une partie du livre. Et Julie, il y avait qu'une partie qui était autobiographique. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rendu encore plus autobiographique. Donc, je lui ai demandé la permission pour prendre encore plus sa vie à elle, avec son aide, et elle m'a aidée pour ça. Et voilà. Et donc, du coup, en tirant le film vers moi, Le déclic que j'ai eu, c'est quand mes enfants sont partis. J'étais en pleine écriture. Et quand mes enfants sont partis, je me suis dit, mais pourquoi tu vas t'embêter avec deux enfants en bas âge, comme dans le livre, avec une femme de 30 ans qui n'est plus la femme que tu es, alors que là, t'as des choses à dire parce qu'un enfant qui s'en va, ben, d'un seul coup, ça me parlait. C'était très fort pour moi. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est pas une impression parce que Marine, ma productrice, c'est ce qu'elle m'a dit. À partir du moment où c'était comme une révélation. C'était d'un seul coup, j'ai vu cette fille qui prenait le train, à qui vous dites au revoir. Et là, mais rien que d'en parler, j'en suis encore émue, quoi, parce qu'elle est partie maintenant, ça fait 2 ans de la maison, et puis mes autres enfants aussi. Mais c'est vrai qu'un départ, même si on est très heureuse dans la vie et très heureuse avec tout le monde et que tout va bien, et ben ça crée un vide. Et je trouve que la maternité, c'est parler de ce vide-là aussi. La maternité, c'est savoir dire au revoir à ses enfants, ne plus les voir comme ses enfants. Enfin, même s'ils seront toujours. Mais justement, je trouve que c'est pas bien de dire nos bébés, parce que ce sont des adultes, ce sont des êtres à part. Et je trouve qu'il y a tout ce travail-là. La maternité, c'est ça aussi. Quand je disais maternité, par exemple, pour moi, la chanson Mamie Blue était aussi très importante, parce que c'était dire adieu à sa mère qui vient de mourir. Et donc, c'est on perd sa mère, en plus, qui meurt de vieillesse. Mais on a, nous, 60 ans, et on perd notre mère, qui en a 80. Et pour moi, c'était toutes les femmes. C'est pour ça aussi que je voulais, pardon, tout ce panel de femmes, de Kenza qui a à peine 20 ans, de Sarah Stern qui en a 30, c'est toutes les générations, 40 Horatica, 50 Sandrine, 60 Brigitte, et pour moi voilà, j'avais tout le monde, et Mamie Blue qui a en fin de vie, et je voulais parler de tout ça, c'était comme si c'était une seule femme. Alors je sais qu'on me, enfin, pas le reproche, mais on me fait la remarque, il n'y a pas d'homme dans ton film, et puis le seul qui est là, il n'est pas... Mais il y avait quelqu'un dans le public, d'ailleurs, j'étais très touchée, parce qu'il m'a dit qu'il aimait beaucoup le mari, qui a un tout petit rôle, mais de la femme dans le coma. Et il me dit, parce que moi j'ai vécu ça, j'ai vécu la mort d'un enfant à la naissance. Et en fait, on n'existe pas en tant que père. Et donc ça, c'était important pour lui de voir que j'avais travaillé le personnage en creux aussi. Et que voilà, on s'occupe, c'était un personnage, voilà, un regard sur la femme à chaque fois.
On écoute la bande-annonce, Voir le jour, ça vient de sortir au cinéma, on écoute.
Ah, c'est un beau bébé, hein.
Je pensais pas que c'était pensé à un accouchement.
Impressionnant, hein.
Ouais. Et vous, c'était comment votre accouchement?
Je sais plus. Sauver les océans, c'est sa passion.
Elle a du boulot, hein.
Maman, c'est qui mon père?
Monsieur, les contractions, c'est pas dans les épaules.
Faudrait se démaquiller, attacher les cheveux, enlever le vernis, couper les ongles.
Bienvenue en mater.
T'es au courant?
De quoi?
Il a survécu, mais l'autre pas.
T'avais pas lu son dossier?
Bon, Marie-Claude, tu sais comment c'est quand même.
Ouais, je sais. C'est Sylvie qui était de garde?
Oui, c'est elle, oui.
Il a raison de porter plainte, parce qu'il y en a marre de ces conditions.
De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui leur sers de bouc émissaire, donc alors.
Bon, ça va, depuis le temps que tu travailles, t'as l'habitude, non?
Non, je m'habitue pas. On est toujours en sous-effectif, et ça, vous vous en foutez.
N'êtes pas syndiqué, que je sache. C'est toujours rester à l'écart, alors continuez comme ça, c'est mieux.
Je crois pas, non.
Ils portaient encore des couches que moi, je mettais déjà des bébés au monde.
Oh, Jeanne.
Il y a un mec là en bas à l'accueil qui cherche une Norma, il dit qu'elle travaille ici.
T'es exploité, t'as des horaires de merde, et t'es moi qu'une femme de ménage. Bonjour le cauchemar, hein.
C'est pas parce qu'on fait ça par vocation qu'on doit être payé minablement. Donc ce soir, il faut décréter la grève.
Enfin, attention quand même, parce que c'est peut-être l'heure de l'apéro, mais c'est pas un shaker.
Voir le jour, c'est le film qui vient de sortir au cinéma que je vous conseille, évidemment. Il a été tourné en partie dans notre région de Nouvelle-Aquitaine. Brigitte, question que j'ai envie de vous poser, quelle a été la scène la plus impressionnante pour vous, celle que vous redoutiez peut-être le plus après la préparation?
Une naissance, c'est un moment à risque, c'est une cascade, hein. Un enfant peut aller bien, pas bien, il y a un problème de dernière minute et tout ça. C'est la tension et alors la tension, c'est très dur, enfin, c'est pas très dur à jouer, non, c'est pas vrai. Mais enfin pas pour moi en tout cas, mais l'attente, machin, et tout d'un coup, ah, c'est idiot de dire ça comme ça, vous allez trouver ça con, mais le miracle d'une nouvelle personne sur Terre, quoi. Qui en plus, bon alors on n'a pas accouché un vrai bébé, mais c'est quand même, dans le film on croit que c'est un vrai bébé. Et les femmes, qui, enfin, on a vécu ça quoi, moi je suis très très touchée par ce que vient de dire Marion sur les enfants qui partent. Parce que alors, ils partent et puis ils partent et puis ils partent et puis ils reviennent et puis c'est insensé, même vieux quoi. Ils font chier jusqu'à la fin, on est leur mère. Bon en tout cas, donc ça démarre là. une petite personne qui arrive en plus. Ça m'a... Oui, j'étais touchée par ça. Et touchée par cette fille qui voulait pas avoir cet enfant. Et puis finalement, elle l'a eu d'une façon où elle est un peu tordue quand même. Parce que moi, le personnage que j'ai là, sur ce coup-là, je suis pas personnellement très en accord avec elle. De lui dire, si, mais c'est bien, vous pourrez... Oh, c'est une petite fille, puis on va l'appeler machin, et tout ça. C'est un peu touchy pour moi, parce que je trouve que c'est tellement difficile, mais il se trouve qu'à l'arrivée, ça vaut vraiment la peine, quoi. Ça vaut vraiment la peine, c'est une... Bon, c'est la chose la plus importante qui puisse arriver au monde, et que les gens qui mettent au monde soient si maltraités, aujourd'hui encore. On le sait, ça, mais on le dira jamais assez. C'est des cascadeurs, les accoucheurs, quand même. Ils inventent des solutions à la seconde, parce que c'est une question de seconde. Moi, j'ai failli perdre un enfant à la naissance. Je vous ai dit, je fais pas ma prière depuis 1000 ans. Ce jour-là, j'ai dit, gardez-le-moi! Eh ben, c'est grâce aux personnes qui étaient autour de moi que il est magnifique. Aujourd'hui, c'est un homme magnifique. Je veux dire, c'est en ce sens-là que je parle de cascade. C'est des moments... Et ben ça, il y a ça dans le film, voilà.
Je comprends. On dit souvent, on peut pas tourner avec des enfants qui ont moins de 3 mois dans le cinéma. Est-ce que vous avez recours exceptionnellement à des enfants de moins de 3 mois ? Ils ont tous plus de 3 mois. Parce que franchement, c'est hyper réaliste. On voit vraiment des bébés dans le film. Quand vous regarderez le film, on a l'impression qu'ils viennent vraiment tout juste de naître. C'est pas possible qu'ils aient 3 mois, ces enfants-là.
Non, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 jours. On s'est immergé dans des maternités en faisant 2 jours de documentaire. Que mon chef op et moi, donc sans son du tout, et on a demandé avec des autorisations donc des sages-femmes évidemment, du corps hospitalier, du directeur de l'hôpital, de la maternité et des mamans qui venaient d'accoucher. Donc on pouvait pas du tout prévoir. C'était vraiment elles accouchaient, on allait les voir, on leur demandait, il y en a qui nous disaient non, il y en a qui nous ont mais très gentiment dit oui, et on filmait que les mains des mamans et le nouveau-né. Et donc ensuite tout le travail. Là, je vous dis vraiment les secrets de tournage, hein, je vous annonce. Mais du coup, pour les gens qui n'ont pas vu le film, ce sera très drôle de le voir pour découvrir, parce que tout le monde demande aux comédiennes, mais c'est formidable de tenir des bébés. Elles n'ont tenu aucun bébé. C'est aucun trucage, mais c'est tout, j'ai envie de dire, l'art du montage. Et vraiment, merci ma monteuse et ma script, parce que tout le travail était de montrer aux comédiennes à chaque fois ces images de nouveau-nés qu'on manipulait. Les nouveau-nés que vous verrez sur l'écran, ils ont quelques heures à peine. Il y en a un, il n'a même pas 2 heures, mais... C'est les mains de la maman, et ensuite on a pris les mains de la comédienne et on a monté comme ça dans les mêmes gestes. Tu rentres comme ça, tu fais ce geste-là, et ça a été cette technique-là.
Voir le jour, en tout cas, ne ratez pas. Ça vient de sortir au cinéma. Brigitte Rouen, qui était avec nous également, joue dans le film. On a Sandrine Bonnaire, évidemment, Sarah Stern, que les fans des Tuches reconnaîtront, dans un rôle beaucoup moins dingo. Mais quoique, on retrouve toujours ce grain de folie chez Sarah qui la caractérise quand même malgré tout.
Tout à fait, oui. Et puis Auratica, qui est extraordinaire, et Lucie Fagédé, Claire Dumas, enfin c'est toute une troupe de femmes incroyables.
Eh bien voilà, on allait voir. Allez voir le jour, c'est maintenant au cinéma. N'attendez pas, allez voir maintenant. Merci à toutes les deux d'être passées nous voir.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Allez, ne bougez pas, juste après cette petite pause, vos nouvelles Miss de Nouvelle-Aquitaine, Miss Aquitaine 2020 et Miss Poitou-Charentes 2020 seront dans Chut, on écoute la télé, accompagnées de Clémence Bottineau, notre invitée d'honneur pour cette rentrée, notre Miss France 2020. Surtout, ne bougez pas, à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé avec Sylvie Tellier, justement directrice générale de la société Miss France, qui est avec nous. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on ouvre le bal, mais il va y avoir dans un instant Clémence Bottineau, notre Miss France 2020, qui va être avec nous aussi, et nos deux nouvelles Miss élues ce week-end. Deux des premières Miss régionales élues. Sylvie, je crois qu'après toute cette turpitude, ça a dû faire du bien de voir les élections régionales reprendre.
Oui, c'est vrai qu'on a eu, on a la chance que les élections aient repris cet été déjà, puisqu'on a, on a élu Miss Languedoc-Roussillon, Miss Corse. Et puis voilà, là, c'est la rentrée des classes, la rentrée des Miss. Donc, on est ravis que ces élections se soient aussi bien déroulées, parce qu'en présentiel, les filles étaient sur scène, il y avait évidemment moins de personnes dans la salle, mais les délégations Miss Aquitaine et Miss Poitou-Charentes ont vraiment travaillé pour permettre aux gens de pouvoir suivre ces élections en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube Miss France et de voter ce soir. Et on a deux très belles jeunes femmes, donc je suis ravie.
Alors c'est surtout aussi symbolique puisque ces deux élections ont eu lieu à Anglette et sur la Côte Basque, et la première Miss élue il y a 100 ans, c'était Miss Pays Basque.
Et oui, Agnès Souré, la première Miss. Alors à l'époque, elle s'appelait pas Miss France. C'était la plus belle femme de France, parce que cette année, on célèbre les 100 ans du concours Miss France, les 100 ans de ce concours de beauté, qui ensuite s'est appelé Miss France avec l'arrivée de Louis de Fontenay, Geneviève de Fontenay. Mais c'est vrai que c'est l'anniversaire de ces concours français. Et effectivement, Agnès Souré était d'Espelette, juste à côté d'ici. Donc c'est quand même sympathique de se retrouver à Anglette pour cette élection.
Alors Sylvie, quel est le premier conseil que vous donnez justement à des Miss qui viennent d'être élues comme ça ?
Oh, des conseils, il n'y en a pas vraiment à donner. Si elles ont été élues, déjà, c'est qu'elles ont, on va dire, elles ont remporté le cœur du jury et des spectateurs. Je leur dis de ne pas changer, de rester telles qu'elles sont, d'aborder cette aventure comme une aventure et pas uniquement comme une compétition, parce que c'est une aventure humaine. Évidemment, le titre de Miss France qui est à la clé, quelque chose qui changera leur vie, mais c'est aussi une aventure de jeune femme avec des amitiés, avec des voyages, avec donc rester telles qu'elles sont, parce que toutes les jeunes femmes sont belles.
Tout est chamboulé hein, cette année avec ce foutu Covid. Comment se prépare l'élection de Miss France 2021 ? Est-ce qu'on peut l'espérer voir en région ? Est-ce que ça sera à huis clos ? Comment ça peut se dérouler ? Parce que j'imagine qu'il y a des nuits qui doivent être courtes quand on pense à la charge de travail qu'il peut y avoir pour préparer une élection comme celle-ci.
Pour être parfaitement honnête, ce centenaire, je l'ai rêvé, je l'ai préparé, je l'ai travaillé. Et puis comme tout le monde en fait depuis le début de l'année, on travaille, on prépare, on change, on s'adapte, on rechange. Donc pour l'instant, on travaille à l'organisation d'un voyage pour ces candidates, on travaille à l'organisation d'une élection dans les régions françaises, comme on sait le faire. On travaille à l'accueil du public. Peut-être que les choses seront différentes en décembre, on s'adaptera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaiera jusqu'au bout, jusqu'à... La priorité reste la santé et reste les mesures barrières et reste la sécurité des gens. Et on n'ira pas évidemment dans un sens inverse. Par contre, tant qu'on aura la possibilité de le faire, on s'adaptera pour faire en sorte que l'élection de Miss France soit là, divertisse les gens et puis amène ce grain de magie qu'on apporte chaque année, parce que les gens en ont encore plus besoin cette année.
Il y a une autre chose, une autre corde à votre arc, Sylvie. Le 21 octobre prochain, on va vous voir au cinéma, dans le film Miss. Ah, ça, c'est une autre aventure, parce que le film a été repoussé. On aura toute l'équipe, d'ailleurs, dans notre émission au mois d'octobre. Là aussi, vivre une élection dans un film comme ça, avec une thématique comme celle-là, ça a dû être assez jouissif quand même à jouer et à vivre.
C'est une thématique qui est importante pour moi, même si elle est très très loin de l'univers Miss France, parce que c'est évidemment une comédie, ce qui se passe, je ne vais pas spoiler le film, mais ce qui se passe dans le film, ça ne serait pas possible dans la réalité. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que ça renvoie à une notion de tolérance, à une notion de... C'est un message qui est... Moi, je suis maman de 3 enfants, et s'il y a bien un message qu'on doit passer à nos enfants, c'est oser. Oser rêver, oser faire les choses, oser aller au bout, même si au final, vous allez rencontrer des obstacles... Voilà, c'est important de le faire, et Alex, dans le film, il ose, il bouscule les codes, il fait rire, il fait pleurer, enfin, elle fait rire, elle fait pleurer, et pour ça, je suis très contente d'avoir été associée à ce film, et je remercie Ruben Alves, le producteur, le réalisateur qui m'a fait confiance et qui a accepté, que je joue un petit rôle dans ce film.
Exactement, Miss, ce sera au mois d'octobre, et bien évidemment au cinéma, la prochaine élection de Miss France 2021, le 12 décembre, en tout cas on espère, on croise les doigts pour tout ça. On vous souhaite un bon marathon des régions, puisque c'est que le début de la tournée des régions pour élire les nouvelles Miss régionales.
Oui, c'est que le début, il commence sur les chapeaux de roue, il a commencé par une polémique qui m'a fait beaucoup de mal, parce que je ne sais pas si vous connaissez mon engagement pour les bonnes fées depuis 5 ans, mon engagement pour le cancer. On a eu un procès qui n'était pas juste. Voilà. Et je tiens à rappeler aux gens qu'on salue toutes les initiatives de nos Miss. Elles sont engagées, elles prennent la parole. Et loin de nous, loin de moi, l'idée de sanctionner une jeune femme qui aimerait prendre la parole. Surtout pour une belle cause comme le cancer.
Voilà. Je suis entièrement d'accord. Bon courage pour la suite. Belle tournée des régions. Et puis on se retrouve très très vite, évidemment, Sylvie. Et on va voir Clémence qui va venir nous rejoindre tout de suite dans Chute, on écoute la télé. Merci Sylvie.
Merci beaucoup.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Voilà, elle était annoncée, je vous l'avais promis, notre Miss France 2020, enfin dans Chute, on écoute la télé. Je suis très heureux de t'accueillir avec nous, Clémence Bottineau, pour cette première émission de la rentrée. Bonjour Clémence.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Voilà,
Clémence, une drôle d'année pour toi, bien évidemment, après ce sacre qui a eu lieu en décembre l'année dernière à Marseille. On va revenir d'abord sur ça avant d'évoquer effectivement un petit peu le confinement, tout ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu. Mais d'abord déjà, quel retour tu fais sur cette élection de Miss France ?
Alors de Miss France, un retour forcément positif. Hein. Miss France, ça a changé ma vie, c'est quelque chose d'unique et j'ai eu la chance de remporter le titre. Voilà, ça fait déjà 9 mois, j'ai l'impression que c'était il y a 5 ans parce que j'ai vécu tellement de choses assez incroyables depuis le début de l'année. Certes, l'année est bizarre, mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup profité. Et puis voilà, c'est un très grand honneur et un cadeau que la France m'a fait il y a de ça 9 mois, donc voilà.
Qu'est-ce que tu dirais que Miss France, c'est un accélérateur d'émotions, un accélérateur de vie? En un an, en fait, on vit 5 ans de vie quelque part.
Alors oui, tout à fait, c'est un accélérateur. Et avant d'être un accélérateur, c'est surtout un choc parce que j'ai du mal encore à me souvenir dans les détails de cette soirée parce que dès lors qu'on a prononcé la Guadeloupe, j'avais l'impression que mon esprit s'était dissocié de mon corps. C'est un mélange d'émotions, de sensations, et après tout de suite on est entré dans un tourbillon. Et justement, il faut se laisser porter, parce que si on essaye de donner du sens à ce qui nous arrive, c'est là qu'on panique, parce qu'on est des jeunes femmes, voilà, il nous arrive quelque chose d'improbable et d'unique, et faut être capable de prendre le coche, comme on dit, très rapidement.
Est-ce que tu rêverais justement d'une carrière professionnelle particulière? Tu rêverais de faire du cinéma, de la chanson, comme Vaille par exemple? Est-ce que tu as des rêves?
Bien sûr que j'ai des rêves, et là encore plus depuis que je suis Miss France, parce que maintenant être Miss France, ça donne accès à tous mes autres rêves. Après, le problème c'est que maintenant je suis quelqu'un, je pars dans tous les sens, donc maintenant il va falloir que je choisisse un seul rêve. Mais je dirais que ce qui me plairait, ce serait d'allier ma passion pour l'histoire et la culture avec ma carrière d'après Miss France. Ce serait ça, trouver un support où je peux parler d'histoire aux jeunes sans que ça soit trop scolaire, essayer de mettre en valeur la culture. Et puis bien sûr, m'engager auprès des aînés, parce que j'ai pu le faire cette année pendant le confinement en Guadeloupe. J'animais une chronique à la radio où j'appelais des personnes âgées. Donc ça a été très enrichissant pour moi et aussi pour eux. Mais c'est vrai que maintenant, essayer, comme le contexte était particulier cette année, c'était difficile de monter des projets, mais maintenant, j'ai la vie devant moi, donc essayer de m'investir dans les causes qui me tiennent à cœur et puis m'impliquer dans la culture. J'ai envie d'être la Miss France de la culture, c'est un peu ça.
Comment t'as vécu ce confinement ?
Sincèrement, j'ai peut-être eu une chance par rapport aux autres Miss France, c'est que je n'ai pas vécu la distance de la même façon. Je suis revenue assez souvent chez moi, j'étais avec mes parents, et justement, à chaque fois, je leur dis, mais on coupe, mais on finit toujours par se retrouver à la fin, donc j'ai 23 ans, quand est-ce que je vais arrêter de toujours revenir à la maison ? Mais non, c'est vrai que ce confinement m'a permis de me ressourcer, et puis aussi m'a donné une certaine liberté, parce qu'on s'est retrouvé face à une situation où comment être Miss France à distance, comment proposer des formats, et c'est là justement qu'il a fallu faire preuve d'originalité.
On a fait des réseaux sociaux.
Exactement, j'ai fait un live salsa, c'était complètement improbable. J'ai fait la chronique, je faisais des chroniques d'histoire sur mon Instagram. Donc voilà, j'ai pu aussi comprendre ce qui me plaisait, ce que je voulais mettre en avant. Donc ça m'a peut-être donné un peu un temps de répit dans cette année qui était déjà très chargée.
Alors, tu es une ambassadrice aussi de la Guadeloupe, il faut pas l'oublier. J'ai envie de te demander comment se porte l'île de Petite Terre, ou comment se porte Goya, ou la réserve Cousteau, ou l'île Écarré aussi. Il y a tellement de beaux endroits en Guadeloupe à visiter.
Alors c'est marrant que vous me parliez de l'île Écarré, parce que l'île Écarré est menacée aujourd'hui, elle risque de disparaître. Donc il y a un gros travail qui est fait au niveau de l'environnement pour le préserver. Mais la Guadeloupe va bien, hein, comme dans France hexagonale, on a les gestes barrières, port du masque obligatoire, etc. Mais j'ai beaucoup profité parce que j'étais en vacances et j'ai visité beaucoup d'endroits. J'ai appris à découvrir la Guadeloupe autrement. J'ai même fait un clean sur une plage à Bouillante d'ailleurs, non loin de la réserve Cousteau, où on a nettoyé les plages. Donc voilà, j'ai fait plein de choses et j'ai profité de ma famille et j'embrasse tous les Guadeloupéens.
Il reste encore quelques mois de règne où tu vas aller à la rencontre des Français, où tu vas aussi aller élire des nouvelles Miss régionales, comme tu l'as fait samedi, avec notre nouvelle Miss Aquitaine, Leila et Justine, notre Miss Poitou-Charentes, qui vont nous rejoindre d'ici quelques instants, justement. Clémence, quel est le premier conseil que tu leur donnes, justement, aux nouvelles Miss élues ?
Alors, c'est simple, il faut profiter. Tout à l'heure, il y a une des candidates qui m'a dit « Oui, je m'attendais pas à être dauphine, moi j'étais là pour m'amuser. » Et je lui ai dit « Mais c'est ça, tu as tout compris. » Parce que le fait de la joie, c'est communicatif. Quand on en a, on en donne et les gens sont réceptifs à ça. Donc, ce que les filles doivent faire, c'est s'amuser et profiter de ces sensations parce que maintenant, ça fait plus d'un an que j'ai été Miss Guadeloupe, maintenant, ça va faire un an que j'ai été élue Miss France. Donc, je sais ce qu'elles ressentent et je sais que c'est des sensations que je ne connaîtrai plus parce que c'est unique. Et ce que je peux leur dire, c'est les débuts, il n'y a rien de plus beau. On a l'appréhension, on a un petit peu les doutes, mais en même temps, on a la motivation et ce qu'elles sont en train de vivre, c'est formidable. Alors, il faut qu'elles en profitent. Se préparer aussi, parce qu'elles ont le temps de se préparer pour Miss France. On ne va pas à Miss France la fleur au fusil, comme on dirait. Justement, il faut se préparer. Donc, elles ont des comités qui sont là pour elles. Et justement, on a besoin des personnes. Donc, je dis ça à toute la région Nouvelle-Aquitaine, donc Poitou et Aquitaine. Soutenez vos Miss, parce que c'est, vous imaginez pas à quel point c'est important. Ça donne une force qui transcende, je veux dire, même Miss France. Donc, voilà, je compte sur vous aussi. Soutenez vos Miss. On a besoin de vous.
Notre belle Miss France, Clémence Bottineau, qui était notre invitée aujourd'hui dans Chute on écoute la télé. On va recevoir nos deux nouvelles Miss Aquitaine et Poitou-Charentes. C'est leur première interview, alors soyez indulgents. Elles ont le stress, elles viennent de s'installer à côté de moi. Je peux vous dire que Leila est la première, elle l'emmène pas large. Mais en tout cas, voilà, on va passer un bon moment. En tout cas, c'est notre spéciale Miss aujourd'hui pour notre émission de rentrée. Clémence, plein de belles choses et on se dit à très vite.
Merci, à très vite et j'embrasse tout le monde et bonne rentrée également.
Allez, la première Miss élue, eh bien cette année, on peut le dire, c'est une des premières avec Poitou-Charentes qu'on va recevoir Justine Dubois dans un instant. Eh bien, c'est Leila Vesslard qui est avec nous. Bonjour Leila. Leila, c'est une aventure incroyable. Il y a 10 jours, tu étais élue Miss Périgord. Il y a 2 jours, tu es élue Miss Aquitaine. C'est incroyable ce qui se passe pour toi en 10 jours de temps.
C'est incroyable, effectivement. En une semaine, c'est dingue. Je n'avais même pas réalisé encore que j'avais été élue Miss Périgord 2020. Et là, on m'a dit, prépare-toi pour Miss Aquitaine. Commence à prévenir les gens autour de toi, faire des photos. Alors, j'avais pas réalisé encore mon titre. Et là, me voilà, Miss Aquitaine 2020, c'est juste magnifique, magique pour moi. C'est un rêve, vraiment un rêve.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te présenter justement à cette aventure Miss France ?
Alors, sans vous mentir, je ne vais pas vous dire que c'est un rêve de petite fille parce que petite, je n'étais pas très à l'aise avec mon corps, avec moi-même. Et jamais j'aurais imaginé pouvoir faire ce genre de concours. Et en fait, l'année dernière, j'ai rencontré Betty, qui est organisatrice de Miss Périgord 2020. Et elle m'a dit, présente-toi, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et puis, cette année, j'ai déposé ma candidature. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement. Et puis je trouve que c'est aussi l'élection des Miss, une façon, comme j'ai dit dans mon discours, de mettre la femme en valeur, la femme moderne, une femme forte. Et puis de mettre notre région, parce qu'on est fiers de notre région.
T'as fait un discours qui a fait sensation lors de l'élection samedi.
C'est très gentil, je suis très heureuse de le savoir. J'étais pourtant stressée, c'était la partie que j'appréhendais le plus. Mais pour moi, c'était très important de mettre aussi l'accent sur le fait que ce sont les 100 ans Miss France quand même, c'est pas rien.
Tu es originaire d'où dans le Périgord ?
Alors en fait, je suis originaire de Saint-Mémin. Je suis née à Périgueux, mais j'ai vécu à Saint-Mémin. Saint-Mémin, c'est dans le Périgord vert, près des gorges de l'Auvézère. Il y a un petit village très très joli. On fait du canoë, beaucoup de randonnées. Et, d'ailleurs, je vous incite à partir en vacances. C'est magnifique.
Alors justement, le Périgord, ils doivent être super fiers de toi, évidemment. Il y a eu déjà Justine Delmas qui a été élue dans le Périgord l'année dernière à Bergerac. Quels ont été les premiers conseils que t'as donné Justine ?
Justine, à vrai dire, c'est vrai qu'elle nous a pas mal épaulé dans les coulisses. Après, on n'a pas eu le temps, franchement, de faire du tête-à-tête. C'est vrai parce que ça allait très très vite. C'était une journée très intense. Mais en tout cas, Justine a été là au moment du couronnement et m'a dit qu'elle allait m'accompagner jusqu'au bout dans l'aventure Miss France, qu'elle allait le vivre comme si c'était elle, comme si elle allait le revivre une deuxième fois. Et ce qui est super dans cette élection, c'est qu'on se sent vraiment épaulé, ça c'est sûr.
Comment t'appréhendes maintenant la préparation pour Miss France? Parce que là, c'est une autre histoire quand même qui t'attend.
Là, honnêtement, je n'ai pas réalisé, comme je vous l'ai dit. Après, je pense que je vais réaliser dans les prochains jours et c'est un rêve, juste un rêve. Donc je pense que je vais le vivre pleinement, vivre chaque instant parce que c'est juste unique. C'est pas tout le monde ne vit pas ça. Mais moi, je pensais pas pouvoir le vivre un jour. C'est un rêve. Donc, je vais prendre le plus de plaisir possible et je pense que c'est le plus important.
Les auditeurs te connaissent un peu mieux. C'est quoi tes passions dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes?
Alors ma plus grande passion c'est la scène et surtout la danse, mais surtout le chant. Le chant, mes parents qui sont aussi musiciens depuis toute petite, je chante depuis toute petite et le chant, c'est surtout le contact avec le public. C'est une grande émotion d'avoir cette émotion, cet échange qu'on peut avoir avec le public. Donc voilà, le chant c'est ma grande passion et puis bien sûr après il y a le sport qui compte beaucoup dans ma vie, qui est de mon équilibre de vie. J'aime énormément la mode, l'élégance et puis les voyages aussi beaucoup.
C'est vaste, l'Aquitaine, évidemment, entre le Pays Basque, le bassin d'Arcachon, le Périgord. Tu vas arriver à aller un petit peu partout? Ça va aller?
Alors, je l'espère, oui. Et puis, ça me fera l'occasion de découvrir encore plus cette belle région. Oui, comme vous l'avez dit, très, très vaste et extrêmement riche et diversifiée.
Merci à toi Léla et puis on se retrouve très très vite, bien évidemment c'est notre nouvelle Miss Aquitaine, sa première interview, c'est justement aujourd'hui dans Chute on écoute la télé. Merci beaucoup Léla et on te souhaite plein de bonnes choses, on t'envoie plein de bonnes ondes en tout cas pour cette préparation. On attend qu'on se recroise très vite, à bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Et on va faire connaissance avec notre nouvelle Miss Poitou-Charentes, Justine Dubois, qui va venir nous rejoindre justement dans un instant. À tout de suite.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Alors, on va continuer évidemment avec nos deux nouvelles Miss de Nouvelle-Aquitaine qui ont été élues donc samedi soir. Et c'est Justine Dubois, notre nouvelle Miss Poitou-Charentes, dont on est très très fiers évidemment. Bonjour Justine.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Ça y est, on dit jamais 203?
Eh ben oui, effectivement, et j'arrive toujours pas à réaliser. On dit jamais 203 parce qu'effectivement, il a quand même fallu que je fasse trois fois pour arriver à décrocher ce titre tant convoité, donc je suis très contente.
Alors, l'histoire est assez merveilleuse quand même. Ta sœur te donne le virus pour te présenter, justement, le bon virus, celui-là, pour te présenter au Miss. Tu pars faire tes études en Aquitaine du côté de Bordeaux. Donc, évidemment, tu te présentes à Miss Aquitaine puisque tu es là-bas. Tu finis tes études. Tu deviens première dauphine de Miss Aquitaine l'année dernière. Tu reviens chez tes parents Angoulême. Tu te présentes à Miss Poitou-Charentes. Ça y est, t'es élue sur tes terres d'adoption, ta terre familiale. C'est magique.
C'est incroyable, c'est vrai que c'est ma sœur qui m'a un peu tout appris, qui m'a coachée pour les Miss et je lui dois beaucoup aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, revenir dans ses terres natales, ça joue beaucoup parce que forcément maintenant je porte le nom de ma région, donc c'est magnifique.
Tu t'y attendais ou vraiment t'espérais très très fort ou t'espérais plus, clairement au bout de 3 ans?
Alors j'y croyais plus du tout, j'ai même failli ne pas me représenter. Et ma sœur m'a poussée, elle m'a dit « Justine, on n'a qu'une vie, tu fonces et puis c'est ta dernière chance, donc vas-y ». Donc j'ai essayé, je me suis dit allez, j'y croyais quand même pas trop et là je me suis retrouvée face à ma première dauphine et même là j'y croyais pas trop.
Alors Andrea Galland qui t'a remis la couronne, quel a été le premier conseil de Miss que t'a donné notre ancienne Miss Poitou-Charentes maintenant, 2019?
Alors elle m'a dit que j'allais vivre une aventure incroyable et le premier conseil qu'elle m'a donné c'est de rester moi-même puisque apparemment sur scène j'ai été fantastique, donc elle m'a dit reste comme ça.
Alors comment t'appréhendes l'aventure Miss France?
Et là j'avoue que j'y ai pas encore réfléchi, je pensais déjà à essayer de décrocher la couronne de Miss Poitou-Charentes, donc là les prochains jours je pense que je vais essayer d'y réfléchir.
Quelles sont les personnes à qui t'as pensé en premier quand t'as eu le titre, quand on a dit numéro 7?
Ma sœur forcément, mais aussi toute ma famille et mes amis qui étaient derrière leur télé, et surtout mon papa qui est tout seul chez moi du coup, vu que ma maman est là aussi. Donc voilà, c'est à eux que j'ai pensé en premier.
Alors j'imagine que l'histoire évidemment est belle. Tu vas partir en voyage de préparation évidemment pour Miss France. On ne sait pas encore où. Donc même question qu'elle est là à l'instant, quelle serait ta destination de rêve?
Eh bien, la destination de rêve, c'était Tahiti. Donc, malheureusement, c'était l'année dernière. Mais après, je suis pas difficile en voyage, n'importe.
On t'attend évidemment dans toute la région pour tourner dans le Poitou-Charentes. Je peux vous dire qu'ils vont t'attendre de pied ferme.
Surtout à Angoulême, je pense que tout mon quartier, ils vont m'attendre devant chez moi.
Bon, il y a des belles choses qui se profilent à l'horizon. En tout cas, on espère que tu vas mener la région très loin. Le rendez-vous, ça sera le 12 décembre prochain, en direct sur TF1, l'élection de Miss France. Quelle a été pour toi tes Miss préférées, en quelque sorte, tes Miss France préférées qui t'ont le plus marqué?
Alors, forcément, Iris Mittenard. Pourquoi? Pour son parcours, évidemment. Et puis, parce que voilà, c'est un exemple depuis toujours. Et la deuxième, ce sera Vaïma Lama. Pourquoi? Parce qu'elle est restée simple elle-même et je trouve qu'elle a vraiment bouleversé un peu les règles de Miss France. Et grâce à elle, aujourd'hui, même les femmes qui sont un peu rondes, elles peuvent s'accepter. Et voilà, je trouve qu'il y a un tournant qui a été pris grâce à Vaïma Lama. Donc, ce seront ces deux Miss-là, mon exemple. Non, mais sinon, voilà, je pense que ce sera aussi au niveau de mes engagements. Je suis quelqu'un qui a vraiment envie de donner de mon temps pour les autres. Et essayer de faire un peu comme Vaïma Lama, bouleverser les choses, essayer de les changer, de les améliorer. Et voilà, je pense que ce titre, déjà, il donne une belle voix et bien forte qui va bien loin pour ça.
Eh bien, c'est bien parti, en tout cas. Justine, merci d'avoir été avec nous et d'avoir terminé avec nous cette spéciale Miss Régionale et Miss France, bien évidemment, pour cette émission de rentrée. Dans un instant, je sais qu'Andrea Galland adore cette émission. On va parler de Koh-Lanta qui est revenue vendredi à la télé. Notre Miss Poitou-Charentes 2019 rêve d'y participer. Eh bien, c'est Jody, une des participantes, justement, de Charente-Maritime, qui va nous rejoindre dans quelques instants dans Chute, on écoute la télé pour la dernière partie de notre émission. Justine, à très vite. Et on te suit, hein. C'est parti.
Merci beaucoup, à très vite.
Et à tout de suite pour nous dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé, évidemment, cette semaine consacrée au retour de Koh-Lanta qui a eu lieu vendredi dernier sur TF1. Deuxième numéro, donc déjà vendredi à 21h10. Et donc, ces quatre tribus qui se sont rejoints au Fidji vendredi, comme vous avez pu le voir, et qui défendent, eh bien, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Et cette année, eh bien, on a décidé, eh bien, de soutenir une candidate qui nous vient de Nouvelle-Aquitaine et plutôt même de Charente-Maritime. Pour être plus précis, c'est Jody qui est avec nous. Bonjour Jody.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Jody, on a vu le premier épisode, bien évidemment. Il y a des portraits qui sont déjà passés, évidemment, dans cette première émission. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, Jody, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure incroyable qu'est Koh-Lanta?
Alors, ce qui m'a donné envie de participer à cette aventure, déjà, c'est Koh-Lanta, c'est quand même un mythe, hein. C'est qui ne rêverait pas de jouer au Survivor sur une île totalement déserte avec des aventuriers et d'essayer de s'en sortir. Et du coup, voilà, j'ai sauté l'occasion et je me suis dit, va te mettre au défi, va essayer de savoir de quoi tu es capable, change-toi de ton confort habituel au quotidien, voilà.
Oui, parce que Koh-Lanta, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, hein, je crois, parce que les participants de la première saison pouvaient être surpris, effectivement, par l'aspect rudimentaire de l'émission. Là, au bout de 20 saisons, vous savez où vous allez, vous savez où vous mettez les pieds, et vous savez à quoi vous attendre en participant à une émission comme ça, même s'il y a toujours de nombreuses surprises, évidemment.
Alors, je pense que, on voit les épisodes, des saisons passées. Mais en fait, on s'attend pas vraiment à ce qui va se passer, et c'est surtout en fait comment notre corps et notre esprit en fait va réagir dans un moment d'inconfort total où on n'a pas de nourriture, on dort très mal, les conditions climatiques, même si c'est des îles paradisiaques, sont pas toujours forcément bonnes. Et en fait, toutes ces conditions réunies, je pense que c'est vraiment un bon test. Pour savoir vraiment de quoi on est capable mentalement et physiquement, et de se rendre compte qu'en fin de compte, le corps est beaucoup plus résistant que ce qu'on pense.
Alors, il est vrai que Koh-Lanta, souvent, c'est des destinations qui nous font rêver. Mais vous, quand vous arrivez sur place et que vous passez 40 jours comme ça, à un moment donné, ça doit vous faire beaucoup moins rêver, puisqu'il y a la faim qui se met effectivement au mauvais temps. Des fois, ça a été tourné en pleine saison des moussons à certains endroits. Il y a cet aspect d'inconfort et puis la proximité aussi des autres candidats.
Alors la faim, elle se fait ressentir de toute façon dans les premiers jours où on arrive. La fatigue aussi, puisqu'on dort très mal. Et il y a cette espèce de lien avec les candidats en fait qui nous lient ensemble. Et en plus, le fait que cette année, on représente la région de l'Ouest. Donc, j'espère bien représenter la région et qu'on aura bien représenté aussi les filles Nouvelle-Aquitaine et région Ouest. Du coup, il y a ce lien aussi de région aussi qui nous unit, je crois. Et je pense que c'était totalement unique dans cette saison. Et on crée, de toute façon, on crée des liens incroyables.
Alors, Jody, vous faites un métier difficile, hein, on peut le dire. Vous êtes ostréicultrice, donc l'aspect un peu rudimentaire du travail et tout, vous connaissez. Là, qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a donné le déclic et à quelle saison, en regardant Koh-Lanta, ou à quel moment vous avez dit, tiens, j'aimerais bien participer à cette aventure?
Alors moi, j'ai beaucoup regardé les premiers Koh-Lanta, quand c'était les toutes premières saisons qui passaient à la télé. Après, j'ai un petit peu lâché, on va dire, les vendredis, parce que du coup, ben, la jeunesse se fait et qu'on sort un peu plus. Après, voilà, je recommençais un petit peu, là, à regarder les émissions de temps en temps. Je sais pas, ce qui m'a donné envie, ouais, c'est vraiment de partir à l'aventure. C'est cette expérience humaine, en fait, de vraiment se mettre dans l'inconfort, de partir totalement loin de tout, loin de ses proches, et de voir comment on va réagir, de partir dans un autre univers aussi, parce que c'est aussi découvrir de nouvelles choses, de tenter de nouvelles expériences. Et j'avais vraiment envie, moi, d'essayer, oui, de. C'était un défi, c'était ouais un défi sportif en fait, et en même temps un défi mental pour voir jusqu'où j'étais prête à aller.
Eh oui, jusqu'où on peut aller. Et quelle est l'épreuve que vous redoutiez le plus par rapport aux épreuves qu'on a pu voir dans les Koh-Lanta précédents? Parce que souvent, c'est l'épreuve des poteaux qui revient et qui est la plus redoutée, mais encore faut-il accéder à la finale. Mais est-ce qu'il y a une épreuve particulière que vous redoutiez, Jody?
Alors, moi, il y a une épreuve que je voyais souvent à la télé, c'était l'épreuve des poteries. Et en fait, j'ai fait beaucoup de handball étant jeune, et j'avais des petits problèmes, on va dire, au niveau des sauts en extension. Et je me suis dit, si on tombe sur une épreuve où c'est les poteries, mais je pense que je vais sauter, mais en mode de crapaud ou enfin quelque chose qui va ressembler à rien, quoi. Donc c'était vraiment une épreuve que j'appréhendais vraiment de tomber dans cette émission. Sinon, je crois qu'on reste tous aussi c'est de faire la fameuse épreuve de dégustation. Ça c'était une épreuve qui me faisait pas peur parce que du coup travaillant dans le milieu ostréicole, on va dire que la texture de l'huître est un peu un mollusque assez gluant et bizarre, et du coup c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, que j'avais envie de faire.
Mais en tout cas, c'est une belle aventure qui s'est présentée, 40 jours. On espère en tout cas, Jody, que vous allez aller le plus loin possible. Je sais que vous savez, mais nous, on va attendre de découvrir au fur et à mesure des semaines. En tout cas, dès que vous quitterez l'aventure, eh bien, vous reviendrez dans l'émission nous faire un petit peu le bilan de tout ça.
Pas de souci. Pas de problème.
Et puis, on reparlera évidemment de toute cette aventure en faisant le bilan. Mais pour l'instant, on va déguster chaque vendredi eh bien l'aventure qui vous lie. Vous, l'équipe de l'Ouest, pour le coup, à laquelle évidemment eh bien on est un petit peu plus attachés, nous, en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, on vous souhaite plein de courage et plein de belles choses. Est-ce que vous avez organisé des petites sessions de visionnage entre vous, entre l'équipe de l'Ouest, par exemple, pour ces épisodes?
Alors, on n'a pas encore organisé de session, mais ça va se faire, je pense, courant de la saison. Donc, on va se voir, je pense qu'avec une des participantes de l'équipe de l'Ouest, on va se voir pour regarder un épisode forcément ensemble. Mais voilà, après, là, le premier épisode, forcément, je l'ai organisé avec des amis proches, moi, de mon côté.
Bah oui.
Et bah voilà, on va au fur et à mesure, on va, je pense que dans tous les cas, on s'appelle déjà, mais on va continuer à s'appeler. Et oui, on va forcément en regarder une tous ensemble et un moment équipe de l'Ouest réunie.
Bon, dernière question, Jody. Comment vous appréhendez la diffusion maintenant? Parce que le regard des gens va changer un petit peu dans la rue. On va vous reconnaître. C'est une émission qui fait quand même 6-7 millions de téléspectateurs. Donc, automatiquement, cette petite notoriété soudaine, vous allez la vivre comment?
Alors, je ne sais pas trop pour le moment. Je pense que je vais le découvrir quand je vais sortir dans la rue et forcément, les gens vont me reconnaître.
Ah bah, la grève à la Tremblade, vous allez faire l'attraction. Hein.
Bah, après la grève à la Tremblade, ils me connaissent déjà parce que forcément, je suis ostréicultrice. Après, la famille Favier, on va dire, est déjà un petit peu reconnue sur le milieu ostréicole et sur le bassin de Marennes-Oléron. Donc, on me connaît déjà. Mais par contre, oui, je pense que certains vont être surpris par peut-être mes talents d'aventurière dans un jeu comme Koh-Lanta.
Et bien, on va découvrir ça, la suite de Koh-Lanta, nouvelle saison inédite au Fidji. Et bien, c'est vendredi à 21h10 sur TF1. Merci, Jody. À bientôt.
Merci à vous.
Et tout de suite, un petit extrait.
Cette année, pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, il va y avoir 4 trinités.
Waouh!
C'est lourd! C'est lourd!
Nord!
Le Nord, là-haut, chez nous, il va être fier de nous.
Sud!
C'est notre terre, c'est notre soleil, c'est nos cigales.
Est!
C'est ça, les gens de l'Est!
Ouest!
L'équipe de l'Ouest, c'est les bestes.
Qui se surpassera le plus pour sa région de France?
On est des bâtons, on est des guerriers et on veut tout donner, quoi.
Vas-y, vas-y!
La tribu qui sera la plus faible partira sur l'îlot de l'exil.
Hors de question de perdre.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous consacrerons une large partie de cette émission à la diffusion événement du téléfilm sur le biopic de Grégory Le Marchal, Pourquoi je vis. Nous aurons le plaisir de recevoir un des coproducteurs, Sébastien Charby, mais aussi Pierre Le Marchal, le vrai papa de Grégory, ainsi que Michael Lumière, qui incarne brillamment eh bien, le rôle de Grégory. Page spéciale donc lundi prochain dans cette émission. Page spéciale également, La Daronne. Le film sort le 9 septembre prochain au cinéma. Jean-Paul Salomé, le réalisateur, et Hippolyte Girardot seront nos invités exceptionnels pour en parler. Stéphanie Pilonka et Julie Debona seront également nos invités pour nous parler du très beau téléfilm Apprendre à t'aimer, qui sera diffusé le mardi 8 septembre sur M6. Un rendez-vous exceptionnel, bien sûr, à ne pas manquer.
Écoutez-vous.
Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé, c'est toute la semaine avec La Quotidienne à 8h40, 13h15 et 19h sur Kaolin. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute, on écoute la télé. Et téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée ce soir à 19h. Et je vous retrouve donc également lundi prochain à 14h et 19h pour la grande hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Kaolin.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre magasin But de Saint-Thierry-et-la-Perche. Ameublement, literie, électroménager, décoration. Et pour tout projet de cuisine, l'équipe de projet et conception vous attend. Zone commerciale d'Arfeuil, route de Limoges, à Saint-Thierry-et-la-Perche.